France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
L'opéra est un monde fertile, loin d'être cantonné aux frontières de l'art lyrique. Il est au contraire, on le sait bien, un lieu d'exploration, de transformation, de transgression et de croisement des disciplines multiples, en tout cas en ce qui concerne les disciplines d'art visuel, on va voir ça, un art total pour reprendre un concept wagnérien, impliquant, se nourrissant et nourrissant les arts visuels. La scène après tout est une peinture en mouvement. Des premiers décors jusqu'aux ambitieuses installations vidéo rendues possibles depuis la fin du XXe siècle, une importante exposition au centre Pompidou-Metz en ce moment retrace, illustre et documente ce parcours, cette épopée. Bonjour Stéphane Guillain-Roussel.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire de cette exposition qui est visible jusqu'au 27 janvier prochain, Opéra Monde, la quête d'un art total. À vos côtés, Denis Guéguin, bonjour.
Bonjour.
Vidéaste, collaborateur notamment de Christophe Warlikowski à l'opéra et au théâtre. Quelle méthodologie pour cette scénographie à Pompidou-Metz pour décortiquer l'opéra depuis Wagner? C'est le mode opératoire que vous avez voulu adopter, Stéphane Guillain-Roussel, décortiquer l'opéra pour essayer de voir quelles sont ses zones fertiles?
Je ne sais pas si c'est vraiment décortiqué, c'est plutôt montrer comment cette grande tendance des arts de Wagner à aujourd'hui à aller vers une sorte de fusion, et l'opéra est un des lieux privilégiés de cette rencontre, par définition, puisque c'est une forme qui convoque toutes les disciplines. Et du coup, on voit un peu deux niveaux de cet art total. En tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer. C'est d'une part qu'il y a énormément de questions esthétiques, formelles, qui mènent à des expérimentations parfois assez fascinantes, totalement radicales. Puis il y a un autre niveau de l'art total qui est une vision politique et engagée. C'est-à-dire comment, en fait, cette fusion des arts, cette capacité sensorielle, elle mène à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'un engagement de repenser le monde. D'où le titre de l'exposition, Opéra Monde.
L'opéra est là pour ça depuis le début, repenser le monde, Stéphane Guillain-Roussel.
Alors je pense qu'il est là au début, vraiment à sa naissance, durant la Renaissance florentine en l'occurrence, comment l'opéra est une forme qui essaie de recréer la puissance expressive de la tragédie grecque. Et là, évidemment, il y a un lien très très fort avec la société, la question de la catharsis, et comment, en fait, le spectacle aurait la capacité de, dans une certaine mesure, de métamorphoser le spectateur, de le changer. Et je pense qu'il reste quelque chose de ça dans l'opéra. D'ailleurs, on voit les réactions du public parfois tellement démesurées. Après, je pense qu'il y a aussi, mais bon, ça c'est un vaste sujet, il y a encore énormément de choses à faire pour aller plus loin dans ce sens-là.
Et on va explorer justement toutes ces possibilités. Je précise que c'est une scénographie de Malgorzata Sesniak avec laquelle vous travaillez. C'est une sorte de labyrinthe que vous proposez au centre Pompidou-Metz, Stéphane Guillain-Roussel. Ça s'est voulu aussi, il faut s'y perdre.
Alors en fait, c'est vraiment, moi je souhaitais dès le début inviter une créatrice, une grande artiste liée au domaine lyrique, pour aussi, questionner la capacité d'une exposition à rendre le spectacle vivant, le rendre visible et perceptible, sensible. Et Malgorzata Sesniak qui a accepté cette invitation et dont je suis vraiment, vraiment, qui m'a fait un plaisir immense, vraiment un honneur, c'est à proposer ce labyrinthe comme une sorte de déambulation qui fait à la fois référence à toutes sortes de mythologies, mais aussi qui montre l'aspect protéiforme de l'opéra.
Avec une entrée en matière assez spectaculaire, très impressionnante.
Et oui, l'exposition qui est composée véritablement comme un spectacle, parce que moi je fais aussi de la mise en scène et j'avais vraiment voulu créer une sorte de dramaturgie, commence par une ouverture qui est en fait dans la grande entrée du centre Pompidou de Metz, qui est un lieu assez monumental. Et pour ce lieu monumental, on a choisi justement une œuvre monumentale qui est le King Kong qu'a fait Malgorzata en 2007 pour l'affaire Makropoulos, King Kong qui mesure 11 mètres de haut et qui est le plus grand élément scénographique fait pour une production lyrique.
Ce qui n'est pas rien. On croise de nombreuses œuvres, évidemment, 300 œuvres, c'est ça, à travers 10 pièces, des œuvres d'avant-garde, autant que des partitions bien installées ou de grands classiques comme la flûte enchantée. Ce croisement, cette fertilisation entre l'art lyrique et les arts visuels, évidemment, ça date d'il y a très longtemps et c'est pas une question d'avant-garde ou de partitions plus installées.
Oui, tout à fait. Ben, disons qu'en fait, c'est dans les ferments même de l'opéra. opéra, puisque dès la Renaissance, dans ses premières expérimentations, il y a une, la question de l'image est très forte. On pense à ces décors baroques, alors qu'ils sont pas présentés dans l'exposition, parce que nous, on est vraiment sur, je dirais, de Wagner à aujourd'hui, avec vraiment des apartés comme la flûte enchantée. Mais la question de l'image, elle est présente dès le début.
Pour commencer, Phil et moi avons fait un schéma directif. Nous avons pensé qu'il faudrait 4 actes, 3 scènes répétées 3 fois.
Je me souviens que Bob a mis sur jour les thèmes. Et si le thème me frappe intéressant, je dis oui. Et si il me frappe pas intéressant, je dis je me sens pas. Finalement, nous avons décidé sur un thème de train, un tribunal, un champ avec un véhicule spatial dans le ciel. C'est comme ça, c'est un mélange de nos idées.
Nous sommes arrivés à un accord là-dessus. Puis nous avons incorporé à cela 5 interludes, 5 niplets. Nous avons donc pris comme point de départ cette structure. Puis Phil a écrit une musique en fonction de cette structure et moi une mise en scène.
On parle de mélange d'idées, d'accords, finalement un peu de consensus entre artistes. On vient d'entendre Philip Glass et Bob Wilson en 76 concernant Einstein on the Beach qui est présente dans votre exposition.
Oui, tout à fait. On a la chance de montrer dans l'exposition le fameux storyboard de la création. Storyboard qui, en fait, a été réalisé après la création comme une sorte de témoignage, mais qui reprend, en fait, toute l'imagerie de Bob Wilson avec, en effet, ce processus tout à fait incroyable et absolument révolutionnaire qui est qu'en fait, Bob a dessiner ces images, conçu tout cet univers et en somme sa structure en dialogue avec Philip Glass, mais le compositeur a composé la musique après, sur les images. Ouais. Ce qui est exactement le processus inverse de ce qui se pratique normalement dans l'opéra de Denis, tu le sais bien.
Denis Guéguin qui est là également, vous souscrivez?
Ben oui, tout à fait. Parce que la contrainte pour un créateur qui doit travailler à l'opéra, il doit bien connaître la musique. C'est la musique qui est la direction, qui est vraiment le moteur de l'inspiration et de l'imaginaire.
Mais ça peut changer. Et c'est pas le fait qu'on soit dans l'expérimental avec Einstein on the Beach, c'est quelque chose qui est en train de changer aussi, Denis Guéguin. Ce travail-là, ce mélange d'idées.
Bah, le mélange d'idées, oui, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de toute façon. Mais en domaine de création contemporaine, je peux pas vous répondre vraiment parce qu'en fait, il y en a pas assez, je dirais, mais ça c'est évidemment assez intéressant à un moment donné que ce soit un plasticien, quelqu'un de l'image, qui vienne proposer un début de dramaturgie en fait à quelqu'un qui pourrait écrire un livret et écrire une partition.
Ouais. Ça change quoi, ça, Stéphane Guillain-Roussel, dans le processus de création de la dramaturgie?
Ça change déjà en fait une chose fondamentale, pardon, qui est que et c'est aussi ce que tente de montrer l'exposition. À partir du moment où un plasticien intervient, il arrive avec un univers qui lui est propre. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, les très grands scénographes sont des artistes à part entière. D'ailleurs, à la fin de l'exposition, on ne fait plus du tout la différence. Mais au début, il faut bien quand même repenser que à ses débuts, et surtout au 19e siècle, par exemple, le métier de scénographe n'existe pas vraiment. Ce sont des techniciens, des artisans. Alors vraiment, tout leur respect qu'on leur doit, qui propose des solutions, simplement. Des solutions, si vous voulez, à un récit. Comment montrer un décor qui représente exactement une réalité. Quand une artiste comme Natalia Goncharova arrive, ou comme Bill Viola, ou toi, Denis, avec ton travail, c'est tout de suite un univers en plus, c'est-à-dire aussi bien un signifiant que surtout un signifié qui se rajoute. Et donc, on a là une polyphonie, une pluralité d'univers qui se rencontrent et qui crée, j'ai envie de dire, une sorte de presque méta-forme.
Denis Guéguin.
Oui.
Parlez-nous de la liberté à l'opéra, parce que c'est une question de liberté là qu'on est en train de toucher.
c'est sûr.
Ah bah, l'opéra, c'est un grand paradoxe, parce qu'en fait, il y a énormément de contraintes. On travaille pour une institution, on travaille avec des chanteurs, avec énormément d'équipes, énormément de moyens, ce qui est absolument extraordinaire. Et on est aussi avec la partition, avec la musique, c'est absolument incontournable. Et en même temps, on doit rester nous-mêmes, artistes, illuminés, et à proposer justement une nouvelle vision, ou bon, c'est prétentieux peut-être une nouvelle vision, mais un endroit où on va toucher le public, c'est-à-dire lui montrer une Salomé, lui montrer un Voïtsek avec une nouvelle image.
Quand on travaille pour l'opéra, dans l'opéra, c'est aussi pour l'éphémère. Or, la vidéo, elle a un statut un peu différent. Elle va rester. C'est un art qui peut-être s'inscrit un peu plus dans le temps.
Oui, c'est spécial parce qu'on fait des films enregistrés, mais il y a aussi beaucoup de vidéos live. Mais effectivement, tout est éphémère. À partir de là, dans l'expo, on peut voir des vidéos, par exemple, la plus importante historiquement, qui est le Tristan Isolde de Bill Viola, où effectivement, c'est une pièce que l'on peut voir indépendamment de l'opéra. On n'a pas besoin d'aller à l'opéra, mais parce que c'est l'œuvre de Bill Viola qui a travaillé aussi avec sa galerie. Donc c'est un parcours vraiment d'artiste, même qui expose dans les musées.
Ça change tout, hein, Stéphane Guilain-Roussel.
Ben, ça change tout, oui, dans une certaine mesure, absolument. Encore une fois, de par à mon avis la puissance, comment dire, expressive qui se déploie, et par le fait que on sent que cette puissance expressive, cette force de l'œuvre, elle a vraiment elle a une cohérence, une vie. Parallèle. Après, ça veut dire aussi, tu dois certainement bien connaître cette situation, Denis, c'est que quand un plasticien arrive dans une production d'opéra, il déstabilise énormément les paramètres. Et c'est très très intéressant. Gérard Mortier, le très très grand directeur d'institution qui a œuvré toute sa vie à ses rencontres, à faire avancer la forme opératique, disait, quand on invite un artiste sur une production d'opéra, en fait, il questionne et invite malgré lui toutes les participants à se questionner sur ce qu'ils font. Et c'est vrai parce que déjà, ces exigences ne sont pas celles qu'on attend habituellement d'un scénographe. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ça amène aussi, il faut bien le dire, hein, parfois à des résultats qui ne fonctionnent entre guillemets pas. Enfin, j'aime pas le mot, mais c'est un peu la réalité. C'est que une scène, c'est pas du tout une salle de musée. Les proportions sont totalement différentes. Ne serait-ce que ça paraît anodin, mais les projecteurs de théâtre, ce n'est pas du tout ce qu'on utilise dans une salle de musée. Donc, d'ailleurs, dans l'exposition, nous, on a essayé autant que se peut de recréer ce que peut faire le spectacle, mais il y a une marge assez infime parce que, la fragilité des œuvres fait que, par exemple, on peut absolument pas utiliser des pleins feux, des...
Néanmoins, les possibilités sont infinies. Denis Guéguin, vous travaillez avec de jeunes artistes en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris. Est-ce que vous leur dites ça, que on peut aller dans tous les recoins, on peut avoir toutes les idées pour mettre en valeur, ou pour apporter, ou pour changer?
Mais oui, c'est ça, il faut ouvrir les yeux, ouvrir la sensibilité, sortir de la peur. Et en fait, effectivement, pour les jeunes chanteurs, c'est tellement difficile d'assurer sur scène, de pouvoir avoir et la technique vocale et le sens du théâtre, le sens du corps, tout simplement, d'avoir une présence vraie, simple, belle, c'est déjà inouï. Alors, évidemment, maintenant, on vient avec les nouvelles technologies, avec tout un tas de choses qui ne font en fait que corroborer ce fait que c'est le chanteur qui doit quand même, qui est au milieu de tout ça, de cet univers d'art plastique.
Come, master, observe the host of mankind. How they wretched. Why? Because they are not free. Why? Because the giddy multitude are driven by the unpredictable mass of their pleasures, and the sober few are bound by the inflexible oath of their duty, between which favorites there is nothing to choose. Would you be happy then, learn to act freely? Would you act freely? Then learn to ignore those twin tyrants of appetite and conscience.
therefore I counsel you, master, take Baba the Turk to wife. Consider her picture once more, and as you do so, reflect upon my words.
Ce Rex Progress sur les décors duquel a travaillé David Hockney. Et on va en parler, Stéphane Guilin-Roussel, commissaire de cette exposition Opéra Monde, la recherche, la quête d'un art total. David Hockney disait, en travaillant ou après avoir travaillé sur ces décors, que l'expérience avait totalement bouleversé sa peinture. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va vraiment dans les deux sens par rapport à ce que nous disait tout à l'heure Denis Guéguin.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un exemple parmi d'autres. Il est assez emblématique. De toute façon, cette production du Rex Progress par David Hockney, elle est emblématique au point que elle a été reprise par après par de très très nombreuses maisons d'opéra. L'opéra de Stockholm, par exemple, 20 ans après la création de Hockney à Glyndebourne, l'a repris, or qu'ils avaient une production de Ingmar Bergman au répertoire. Donc vous imaginez à quel point... Ce qui est très intéressant dans ce sens-là, c'est qu'on voit comment, en fait, un peintre, en l'occurrence, va impacter sur l'opéra et créer, comment dire, un monde qui fait bouger les cadres, vraiment la forme même et l'esthétique. Et inversement, en effet, l'opéra... Comment dire, par une sorte d'aller-retour, impact sur l'œuvre du peintre. Et David Hockney, comment on va dire qu'en effet, c'est une expérience, comment dire, qui va changer du tout au tout pour lui. D'une part, comme j'expliquais tout à l'heure, probablement à cause de ces dimensions de la scène qui sont très très grandes, Natalia Goncharova disait par exemple qu'en fait, on peut pas du tout transposer une peinture de Chevalet sur la scène en faisant simplement des formats beaucoup plus grands. Ça marche pas du tout. Et puis aussi, alors dans le cas de David Hockney, c'est vraiment un point très très précis, c'est un point stylistique, c'est qu'il a repris une très ancienne technique de gravure et en fait, il l'a appliquée sur des grands formats. Et ces techniques, va réapparaître très souvent par après. Il y a un autre exemple très important dans l'exposition, c'est celui de James Turrell. Pascal Dussapin invite James Turrell, ils font cette collaboration incroyable en 94, d'ailleurs aucune salle d'opéra ne veut, si bien que c'est un théâtre, le théâtre de Nanterre, qui va créer cette œuvre. Et en fait, James Turrell, pour la première fois, crée une œuvre dans laquelle sont... présents des chanteurs, des chanteuses. Si bien qu'en fait, suite à cela, il va créer des œuvres qu'on peut observer de l'extérieur, mais aussi certaines œuvres qui sont littéralement immersives. En plus aussi, un changement de couleur, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc vous voyez, c'est très fort. Comme aujourd'hui, les œuvres de James Turrell, la moitié, c'est vraiment des œuvres qu'on ne peut pas imaginer sans être dedans.
Merci beaucoup, Stéphane Guilin-Roussel, commissaire de cette exposition au Centre Pompidou, Metz, visible jusqu'au 27 janvier 2020, oui, je crois.
Merci pour l'invitation.
Opéra Monde, la quête d'un art total. Merci aussi à vous, Denis Guéguin. Vous travaillez en ce moment au ciné-concert, hein, c'est ça, de l'Opéra de Paris?
Non, je prépare un ciné-concert avec l'Académie.
Pour mai 2020.
Oui.
On en reparlera. Merci à tous les deux d'être venus sur France Culture dans les matins.